Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année du cours de la cette nouvelle année de cours de la chaire de sciences du logiciel qui sera consacrée donc cette année aux logiques de programme et en particulier donc comment peut-on raisonner sur un logiciel. Alors les circonstances sont un peu particulières cette année puisque le Collège de France est fermé au public et donc le cours est enregistré à huis clos et diffusé ensuite sur le web une à deux journées plus tard. Bon, j'espère que malgré ces conditions pas tout à fait idéales, vous serez nombreux à pouvoir suivre le cours. Et alors, bien sûr, ça n'aide pas pour échanger avec vous et entendre vos questions, essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique. Vous avez mon email ici et je ferai de mon mieux pour essayer d'y répondre rapidement. Voilà. Donc, la question à laquelle nous allons essayer de répondre cette année, c'est une des questions de base du logiciel, c'est comment s'assurer qu'un logiciel fait ce qu'il est censé faire. C'est un peu la question numéro 2, après, comment écrire un logiciel. Maintenant, comment le valider, comment le vérifier. Alors, il y a les méthodes classiques que vous connaissez tous, donc à base de tests, de revues et d'analyses. Donc le test où on exécute le programme sur des entrées bien choisies et on compare les comportements observés aux comportements attendus. Les revues, où il s'agit donc de relire attentivement le code, mais aussi les tests, les documents de conception, etc., et de se convaincre que l'ensemble est cohérent. Et les analyses, donc, qui est quelque chose qu'on fait un peu moins souvent et pour des logiciels, qu'on fait plutôt pour des logiciels importants, qui, alors c'est une étude quantitative, alors, les revues étant plutôt qualitatives, donc c'est une étude quantitative, souvent mathématique, de certains aspects du programme. Par exemple, la précision numérique, si on fait une simulation numérique, quelle est l'erreur maximale. La complexité en temps ou en espace, pour du logiciel temps réel embarqué, les temps de réaction, le worst case execution time, etc. Alors traditionnellement, les analyses se font sur le papier, à la main, mais de plus en plus, on s'aide avec des outils d'analyse statique. Alors bien sûr, ces techniques traditionnelles ont des limites. Alors les limites du test, il y a cette méchante épigramme d'Edgar Dijkstra en 1969 qui dit que le test montre la présence mais pas l'absence de bugs. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on ne teste qu'un petit nombre des comportements possibles du programme, qui sont généralement entre un grand nombre, voire en nombre infini. Et par ailleurs, certains bugs se déclenchent très rarement et donc sont difficiles à détecter par du test, y compris du test aléatoire. Alors un exemple de bug difficile, c'est dans les codes, dans les librairies de cryptographie, où il y a souvent de l'arithmétique multiprécision, et il y a des problèmes avec la propagation des retenues. Par exemple, ça c'est un bout de code qui vient de OpenSSL et qui optimisait la propagation de la retenue dans ce calcul. Et en fait, la propagation était fausse, mais ça se voit très peu, parce que propager une retenue, ça peut provoquer une nouvelle retenue qui elle-même va provoquer une nouvelle retenue, mais ça arrive très très rarement. Les revues de code, ce que disait Eric Raymond à propos du développement du noyau Linux, étant donné suffisamment de paires d'yeux, tous les bugs sont évidents. Peut-être, mais d'abord, on n'a pas toujours suffisamment de paires d'yeux. Et ensuite, parfois, les paires d'yeux sont fatiguées, ou font des erreurs d'étourderie, ou sont un peu distraites, et ratent une erreur évidente. Et par ailleurs, certains codes sont moins relus que d'autres. C'est assez curieux. Ce n'est pas forcément les codes les plus critiques qui sont les plus relus, et par exemple des hotfixes, des correctifs urgents, sont souvent peu relus au nom de l'urgence. Alors un exemple d'erreur qui n'aurait jamais dû passer une relecture, ça vient aussi d'une bibliothèque de cryptographie, cette fois-ci de chez Apple, et c'est cette ligne go to fail qui a été dupliquée, peut-être par une erreur de couper-coller. Et autant le premier go-to-fail est légitime parce qu'il est gardé par ce if, d'accord, autant le deuxième n'est pas gardé du tout, il se produit inconditionnellement et il a pour effet de faire sauter par-dessus un certain nombre de vérifications essentielles et cela ouvre un trou de sécurité. Et maintenant, les limites des analyses de code. Bien sûr, quand on fait l'analyse à la main, il y a des risques d'erreur. On peut se tromper dans les calculs. Quand on fait de l'analyse assistée par des outils, la plupart même sont unsound, au sens où ne détectent pas toutes les erreurs Ils détectent certaines erreurs, mais ils peuvent en laisser passer d'autres et donc donner un faux sentiment de confiance. Et puis, parfois, il y a aussi un décalage entre ce qui est analysé, entre l'analyse et le vrai programme ou ses vraies conditions d'exécution. Alors, l'exemple célèbre, c'est le vol inaugural d'Ariane 5, vol 501, donc, qui a explosé à cause d'un débordement dans une conversion d'un nombre flottant vers un entier 16 bits. Et il y avait eu une analyse sur papier très poussée de ce code qui avait conclu que non, c'est pas possible que ça déborde parce que la quantité convertie, BH, le biais horizontal, tient dans 16 bits. Malheureusement, cette analyse, elle avait été menée dans le contexte d'Ariane 4 et réutilisée ainsi que le code tel quel dans Ariane 5. Et dans Ariane 5, les conditions physiques, les caractéristiques physiques de la fusée étaient tellement différentes que la quantité BH ne tenait plus dans 16 bits et on l'a vu dès le premier vol. Voilà. Et donc, l'autre approche complémentaire à ces techniques classiques que l'on va étudier cette année, c'est la vérification déductive, alors qu'on appelle aussi program proof en anglais, donc preuve de programme en franglais. Donc là, il s'agit d'établir par le raisonnement logique, par les déductions, des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme, et même si elles sont en nombre infini, car seules les mathématiques et la logique nous permettent de maîtriser l'infini. D'accord. Et alors, ça rentre dans le cadre général des méthodes formelles, mais au contraire, d'autres méthodes formelles, comme l'interprétation abstraite ou la vérification par modèle, le model checking, là, on ne se restreint pas a priori sur les propriétés que l'on peut établir. Elles peuvent aller jusqu'à la correction complète vis-à-vis d'une spécification très riche. Et en tout cas, on n'est certainement pas limité à juste montrer l'absence d'erreur à l'exécution. Alors bien sûr, cette puissance, cette expressivité se paye par le fait que c'est des techniques moins automatiques que les autres méthodes formelles que vous connaissez peut-être. Mais malgré tout, donc, il y a des intérêts pratiques évidents à la vérification déductive. D'un côté, ça permet d'obtenir des garanties plus fortes que celles atteignables par le test et par les revues. Et ça, c'est important dans certaines industries, comme par exemple la sécurité, où vous avez des normes, les critères communs, qui exigent l'utilisation de ces méthodes formelles pour obtenir les garanties au niveau les plus élevés. Mais il y a aussi une autre utilisation qui est pour trouver des bugs introuvables autrement, qu'on n'arrive vraiment pas à trouver par le test et par les revues. Donc là, il ne s'agit pas d'être absolument sûr qu'il n'y a pas de bug, il s'agit d'en trouver davantage. Alors, quid des logiques de programme ? C'est le titre du cours. La logique du programme, c'est de la même manière qu'une logique mathématique, c'est ce qui vous permet de poser des définitions mathématiques et puis de dénoncer les propriétés et de les démontrer. Une logique de programme, c'est ce qui vous permet de spécifier un programme et puis de démontrer que tous ces comportements satisfont les spécifications. Donc il y a à la fois un côté langage de spécification et surtout un côté principe de raisonnement sur toutes les exécutions possibles du programme. Alors, les spécifications, ça se présente généralement comme des assertions logiques, on va voir des exemples dans quelques minutes, qui portent sur certains points du programme, par exemple des préconditions, on énonce les hypothèses sur les entrées du programme, sur les paramètres d'une fonction, sur les valeurs initiales des variables. Les post-conditions, on donne des garanties sur les sorties, que le résultat de la fonction, c'est bien la racine carrée de son argument à epsilon près, par exemple, sur les valeurs finales des variables aussi. Et puis, on peut énoncer des invariants, qui sont donc des garanties sur l'état en un point du code. Il peut y avoir des invariants de boucle, il peut y avoir des invariants sur les structures de données aussi, par exemple qu'un arbre binaire est toujours un arbre de recherche ou est toujours équilibré, ce genre de choses. Et donc, comment tout ça se combine pour faire un outil de vérification déductive ? Donc, on part d'un programme et d'un certain nombre d'assertions écrites à la main, et qui sont combinés ensemble via cette logique de programme, et qui, généralement, on lui fait produire ce qu'on appelle les conditions de vérification, donc qui sont des énoncés en logique mathématique usuelle, qui disent à quelles conditions donc, le programme satisfait ses assertions, à quelles conditions les préconditions impliquent les invariants qui impliquent les postconditions. Et sur ces conditions de vérification, donc, on peut faire de la démonstration manuelle, dans le temps, et de plus en plus automatique, assistée par l'ordinateur, ou interactive, avec des outils comme l'assistant PreuveCoq ou Isabelle Achoel. Et à la fin, si on a de la chance, tout est démontré, Et sinon, il y a des choses qui sont fausses ou qu'on n'arrive pas à démontrer et qui souvent, donc c'est une alarme, ça indique un bug très probable, soit dans le programme, soit dans les spécifications. Voilà, donc maintenant, voyons voir un peu plus, de manière un peu plus pratique, comment ça marche sur un exemple. Alors, c'est un exemple célèbre, c'est un code qui est tout à fait essentiel en informatique, la recherche dichotomique dans un tableau trié. Vous connaissez tous comment ça fonctionne. Donc, vous avez un tableau trié. Maintenant, vous cherchez, par exemple, la clé 4. Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Et l'idée, c'est de comparer la clé par rapport à la valeur médiane du tableau. Et suivant qu'elle est plus petite ou plus grande, on va se focaliser sur la partie gauche ou sur la partie droite du tableau et puis itérer la recherche sur des sous-parties du tableau. Alors, cet algorithme est très beau parce qu'il est extrêmement efficace. D'accord, on trouve ou on montre l'absence de l'élément en temps logarithmique. Donc voilà une implémentation écrite en Java, C, C++. Et vous voyez que le code est assez court. Et alors c'est un code qui a une longue histoire. Donc l'idée qu'on peut faire de la recherche dichotomique dans un tableau trié apparaît dès 1946 dans des notes de cours de John Moakley, sans doute les premières notes de cours d'un cours de programmation. En 1960, donc, l'algorithme moderne ci-dessus est publié par M. Lehmer. Avant, on avait tendance à supposer que la taille du tableau était une puissance de 2. En 1986, John Bentley il consacre un chapitre célèbre de son livre « Programming Pearls » où il explique vraiment très, très précisément comment donner un sens à ces paramètres L et H. Et du coup, une fois qu'on a donné un sens clair à ce que c'est que cet intervalle de recherche LH, le code s'écrit tout seul d'une certaine manière. Donc ça, c'est exactement le code qui sort du livre de Bentley. Et que tout le monde a ensuite coupé, collé et utilisé dans des dizaines de bibliothèques. Et puis en 2004, arrive un rapport de bug chez Sun, les développeurs de Java, qui dit que la méthode binary search de la classe arrays lève une exception arrayIndex out of bounds si le tableau est trop grand. Bon. Et puis, deux ans plus tard, donc Joshua Block, un ingénieur de chez Google qui programmait beaucoup en Java, publie un blog, une entrée de blog célèbre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, intitulée « Presque toutes les recherches dichotomiques et tous les tris par fusion sont cassés ». Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est le calcul du point médian M de l'intervalle LH. Donc, la formule que tout le monde utilise, c'est la formule de la moyenne. L plus H divisé par 2, malheureusement, ça peut déborder. Parce que L et H sont entre 0 et la longueur du tableau, mais en Java, par exemple, donc L et H sont de type entier, varient entre moins de puissance 31 et 2 puissance 31. La longueur du tableau, c'est aussi un entier, donc peut aller jusqu'à 2 puissance 31. Et donc vous voyez que si L et H sont supérieurs à 2 puissance 30, la somme L plus H va déborder. Alors, qu'est-ce qui se passe en Java ? En Java, il y a une arithmétique modulo. Donc, quand on déborde vers le haut, on se retrouve dans les nombres négatifs. Donc, M est négatif, et l'accès à crochet de M lève une exception, accès hors borne. C'est le rapport de bug de 2004. Alors, si vous programmez en C, c'est plus intéressant. Avec de l'arithmétique signée, le débordement est un comportement indéfini, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être M va être négatif, à crochet de M, du coup, il y a un accès hors borne, mais on ne sait toujours pas trop ce qui se passe. Ça peut planter ou ça peut faire n'importe quoi. Si vous faites de l'arithmétique non signée, alors le débordement est bien défini, mais votre M, du coup, il se retrouve à gauche de L et de H, donc votre intervalle de recherche est vide et vous renvoyez un résultat incorrect. Bref, il y a un problème. Et alors, le correctif est simple, il y a d'autres formules de calcul du point médian qui ne font pas de débordement, par exemple celle-ci, L plus la moitié de la largeur de l'intervalle HL, enfin LH, donc H moins L sur 2. Et ça, on peut montrer facilement que ça ne déborde pas. Alors, pourquoi un tel bug est difficile à trouver ? Par le test, d'abord, parce qu'on teste rarement sur de très grosses données. Je vous rappelle, là, il faut un tableau de plus de 2 puissance 30 éléments. Et ça fait quand même pas mal. 2 puissance 30, c'est 1 giga, il me semble. Donc, il faut plusieurs gigaoctets de mémoire pour faire apparaître ce bug. Et c'est un peu dispendieux sur des machines modernes de tester sur d'aussi grosses données. Et puis, au siècle dernier, quand Java est apparu, d'accord, il n'y avait pas de machine qui pouvait adresser plusieurs gigaoctets. Elles étaient rarissimes. Il faut une machine 64 bits et beaucoup de mémoire. Et ça, c'était une ressource rare. Donc oui, on ne teste pas ce genre de choses. Alors, par revue de code, c'est vrai que Bon, aujourd'hui, on est peut-être plus sensible à ces problèmes de débordement arithmétique, mais pendant très longtemps, personne n'a eu le moindre problème avec la formule L plus H sur 2. Elle est complètement familière, c'est celle qui apparaît dans tous les livres d'algorithmique qui décrivent ce code. Et c'est même pire, si vous mettez maintenant la formule correcte, L plus H moins L sur 2, un relecteur bien intentionné va peut-être dire « Oh, mais on peut optimiser, d'accord, on peut faire L plus H sur 2, mathématiquement c'est la même chose, et puis ça fait une opération de moins. » Donc ça fait partie des bugs que les gens réintroduisent ensuite. Très agréable. Alors, quid des analyses ? Bon, c'est vrai qu'une analyse sur papier focalisée sur les débordements arithmétiques devrait être capable de trouver ça, et certains outils d'analyse statique, notamment automatique, donc par analyse d'intervalle, pourraient, je pense, signaler l'erreur. Et alors maintenant, regardons comment une approche de vérification déductive met en évidence ce bug et puis finit par montrer la correction totale de notre fonction de recherche dichotomique. Donc, je vais faire la démo avec l'outil Framacy, donc qui fera aussi l'objet du premier séminaire la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas eu le temps de bien régler toutes mes fenêtres, donc excusez-moi si la démo est un peu laborieuse. Mais voilà, donc je bouge quelques fenêtres et donc je vous montre à droite, j'espère que vous voyez bien, à droite c'est le code tel qu'il est fourni à l'outil. J'essaye de redimensionner. Voilà. Donc, c'est le code exactement comme sur mes transparents. Donc, pour le moment, j'ai mis absolument aucune annotation. D'accord ? À gauche, c'est la forme interne, un peu simplifiée, que l'outil analyse. Et vous voyez que l'outil il a ajouté en commentaire des conditions supplémentaires qui doivent être vérifiées, qui sont justement l'absence d'erreur à l'exécution. RTE, c'est Runtime Errors, erreur à l'exécution. Donc, il se donne comme objectif, puisque je ne lui ai rien donné aucune propriété, il se donne quand même comme objectif de montrer qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution, qu'il n'y a pas de débordement arithmétique et que les accès dans les tableaux, ici et là, sont bien dans les bornes du tableau. Et bien sûr, il échoue. Donc là, j'ai des pastilles jaunes et... enfin bref, j'ai pas de vert, d'accord ? J'ai du jaune, du rouge, du machin. Bon, ça va pas du tout. Et il arrive à rien démontrer parce qu'effectivement, tout ça peut être faux. Par exemple, si size, qui est un paramètre de la fonction, est le plus petit entier représentable, ben évidemment, size moins 1, ça déborde. Et puis, si mon pointeur T, il est nul, évidemment, les accès à T sont incorrects. Bon. Donc, en gros, il peut rien faire et il faut que je l'aide en donnant un contrat à cette fonction. Alors, c'est là que j'essaye de trouver la version numéro 2, qui n'est pas celle-ci, qui est celle-ci. Donc, la version numéro 2, j'essaye de l'aider un peu en donnant un contrat à cette fonction. Alors, le contrat est assez simple pour commencer. Je lui dis que l'aplan va garantir que size est supérieur ou égal à 0, ce qui est assez normal pour une taille de tableau, et que T est un tableau valide de cette taille, donc aux indices 0 jusqu'à size moins 1 dans T, il y a une mémoire correctement allouée, pas encore désallouée, qu'on peut accéder de manière fiable. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? Je commence à avoir un peu de vert dans mes pastilles. Donc, je commence à avoir du vert. Par exemple, ici, il a réussi à montrer que size moins 1 ne peut pas déborder, puisque size est positif. Là, il a réussi à montrer que low plus high ne peut pas déborder vers le bas. En revanche, il n'arrive pas à montrer que low plus high ne peut pas déborder vers le haut. Et effectivement, c'est le bug dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ben, il ne peut pas montrer que les accès au tableau sont valides, puisque la valeur mid est a priori indéfinie. Bon, alors allons un petit peu plus loin. Ah oui, pardon, puis je l'ai aussi un petit peu aidé en donnant quelques d'informations sur la boucle. Par exemple, je lui ai dit que dans la boucle, low était toujours positif et high était toujours strictement plus petit que size. Et ça, il est capable de le vérifier. Non, il n'est pas capable de le vérifier. C'est pour ça que c'est toujours à cause de ce débordement. Et de même, je lui dis qu'il y a un variant à la boucle, c'est que la quantité high moins low décroît strictement à chaque tour de boucle, et c'est ça qui va garantir sa terminaison. Mais là aussi, il n'est pas capable de montrer qu'elle décroît strictement, parce qu'il y a encore trop d'erreurs. Bien. Alors, on continue la version 3, que je vais essayer de retrouver. La voici. Donc, dans la version 3, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû spécifier un petit peu plus. J'ai spécifié un petit peu plus, et maintenant,
Non, je ne vois pas de différence. Ah si, et maintenant j'ai changé la formule de calcul du point médian pour mettre la formule correcte, celle qui normalement ne déborde pas. Et du coup, ben oui, il arrive à le montrer sans difficulté, sans trop de difficulté, donc il n'y a pas de débordement, que les accès dans les tableaux, dans le tableau T sont toujours dans les bornes, que la quantité high moins low décroît strictement, et donc que la boucle termine. Donc là, je sais que mon code termine sans erreur. C'est déjà bien. Cependant, je ne sais toujours pas s'il me renvoie la bonne valeur. D'accord? Est-ce qu'il fait vraiment une recherche dichotomique ou bien juste il renvoie toujours moins 1 pour dire qu'il n'a pas trouvé l'élément, ou etc. Alors, c'est là que je prends la version d'après, parce que je vais directement ici. Oui. Alors, là, je commence à spécifier un petit peu plus ma fonction. Donc, je demande deux choses. Donc, je voudrais que si le résultat est espéré ou égal à 0, alors ça montre que ma clé est bien dans mon tableau à cette position. Donc ça, c'est une des postconditions de la fonction. Puis l'autre postcondition, c'est que si le résultat, c'est moins 1, alors la clé n'est pas dans le tableau. Parce que je peux exprimer ainsi, tous les éléments du tableau sont différents de la clé. Et là, l'outil arrive à montrer la moitié du résultat, c'est-à-dire qu'il arrive à montrer une des deux postconditions, celle qui est que si le résultat est supérieur ou égal à 0, alors c'est bien l'indice du tableau. L'indice de la clé dans le tableau, et ça, c'est pas difficile, parce qu'il y a, excusez-moi, il y a que il y a que deux points de sortie dans ce code. Donc ici, on sort juste après avoir vu que c'est bien l'élément T crochet mid, et on renvoie mid, et dans l'autre cas, on renvoie moins 1, et donc on n'est pas dans cette post-condition, celle qui dit result supérieur ou égal à 0. En revanche, c'est l'autre post-condition qui est difficile à montrer, celle qui dit que si on renvoie moins 1, on n'est pas dans le tableau. Et ça, pour la montrer, il faut prendre en compte le fait que le tableau est trié. D'accord? Sinon, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est là qu'arrive la dernière version finale, qui est ici, où là, c'est un petit peu plus technique au niveau de tout ce qu'il faut spécifier. Donc, il faut ajouter des préconditions pour dire le tableau est trié. Que j'exprime comme ceci. Essentiellement, c'est une fonction croissante de ces indices. Si i est inférieur ou égal à j, alors t de i est inférieur ou égal à t de j. Et puis, il faut raffiner l'invariant de boucle et exprimer essentiellement la propriété importante, qui est que à gauche de l'intervalle de recherche, entre 0 et low, la clé ne peut pas être dans le tableau. Ça a été exclu, en fait, parce que la clé est supérieure à toutes les entrées du tableau. Et qu'à droite de l'intervalle de recherche, entre high et size, de même, la clé est strictement plus petite que les éléments du tableau, et donc elle ne peut pas être dans cette partie. Donc si la clé est dans le tableau, elle est dans le sous-intervalle low-high, et c'est ça qui permet finalement de montrer la correction complète de cette fonction. Alors bon, il y a quand même du boulot, hein, si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe sous le capot. Donc l'outil produit un certain nombre de conditions de vérification, comme on le disait tout à l'heure. Qui sont ici, par exemple, je ne sais pas, moi, là, on a la préservation d'un des invariants, qui n'est peut-être pas le plus compliqué, mais on peut voir à quoi ça ressemble. Oula, c'est écrit petit, mais ce n'est pas grave. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une grosse formule. Enfin, il faut montrer quelque chose d'assez simple, mais avec beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Et pour ça, on utilise des démonstrateurs automatiques, qui, on a de la chance sur ce cas, cet exemple, réussissent à tout démontrer. Voilà. Bon, la démo était un peu longue, je vous prie de m'en excuser, mais j'espère que vous voyez un petit peu le type d'outils dont on dispose et pourquoi c'est intéressant pour vérifier des codes très largement utilisés, comme par exemple la recherche dichotomique. Donc, parlons du cours et du séminaire maintenant. Donc les objectifs du cours, c'est précisément de comprendre les principes des logiques de programme et les développements récents dans ce domaine. Donc il y a eu beaucoup un renouvellement très vif du domaine depuis 2000, les années 2000. Et un des leitmotifs, une des questions qu'on va poser très souvent, c'est quelle logique faut-il pour quel trait des langages de programmation ? D'accord ? C'est pas les mêmes logiques pour si votre langage est fonctionnel pur, si votre langage a des variables impératives, si votre langage a des pointeurs et donc des blocs mémoire modifiables en place, si votre langage a du parallélisme, si votre langage a de l'ordre supérieur. Donc chacun de ces traits rajoute des comportements qui sont difficiles à comprendre et on a besoin de logiques de plus en plus subtiles. Et donc c'est ça qu'on va, cette progression qui va beaucoup nous guider pendant tout ce cours. Alors, il y a aussi donc un séminaire qui commence la semaine prochaine et qui aura plusieurs objectifs. Enfin, c'est de l'approfondissement du cours, bien sûr. Donc, il y en a un qui est d'illustrer l'utilisation de ces logiques de programme pour des outils de vérification de qualité industrielle. On en verra au moins trois. Et puis, c'est aussi de montrer de nouveaux problèmes de vérification. Il y a de nouvelles propriétés qu'on veut vérifier sur les programmes. Et comment on peut aborder ça, quels changements ou quelles adaptations des logiques existantes sont nécessaires. Voilà, donc le plan du cours, donc, dans l'heure qui reste, on va embrayer sur le premier cours, qui est l'historique, la naissance de ces idées de logique de programme. La semaine prochaine, on parlera d'une logique pour un langage impératif tout simple, variable et des boucles, c'est la logique de Hoare, du nom de son découvreur. La semaine d'après, le 18 mars, on introduira la logique de séparation pour parler de pointeurs et de structures de données. Le 25 mars, on ajoutera le parallélisme à mémoire partagée dans la soupe, et ça donne la logique de séparation concurrente. Le 1er avril, on va regarder diverses extensions de cette logique de séparation et logique de séparation concurrente. Le 8 avril, on va voir que la concurrence, c'est encore plus compliqué qu'on ne le pensait dans les processeurs multicore et multiprocesseurs d'aujourd'hui. Donc il y a de la mémoire dite faiblement cohérente et comment est-ce qu'on peut en rendre compte dans une logique de programme. Et on finira en parlant un peu de mon dada, qui est donc les langages fonctionnels, bien sûr, et l'ordre supérieur, et de voir ce que les logiques de programme ont à dire là-dessus. Et donc pour ce qui est du programme du séminaire, donc la semaine prochaine, ce sera Loïc Corançon du CEA qui parlera justement de l'outil Framacy WP, dont j'ai fait une démo très rapide. Ensuite, Yannick Moy de la société Alacor, qui parlera de la preuve de programme en Spark, donc il y a un atelier au-dessus du langage ADA. Le 25 mars, on aura Bart Jacobs de l'Université catholique de Leuven, qui nous parlera de VeriFast, donc un outil de vérification d'outils de programmes concurrents, C et Java. Le 1er avril, François Potier de l'INRIA, qui parlera de raisonner à propos du temps, donc temps d'exécution dans une logique de séparation. Le 8 avril, Jacques-Henri Jourdan du CNRS, qui nous parlera de la logique IRIS, donc qui est un peu une grande unification de beaucoup d'idées sur les logiques de programme, et aussi une espèce de boîte à outils permettant facilement de construire des logiques pour exprimer en particulier ce qu'il appelle les protocoles personnalisés, dont il nous parlera. Et enfin, nous finissons le 15 avril avec Philippa Gardner, qui est professeure à l'Imperial College de Londres, qui nous parlera des travaux de son équipe sur Gillian, un nouvel outil qui combine vérification déductive et test symbolique. Donc on a quelques belles séances devant nous, et je vous propose de commencer tout de suite par donc le premier cours, qui est donc sur la partie un peu historique des choses. Comment ces idées de logique de programme sont nées. Et on va essentiellement faire ça à travers trois articles historiques d'une importance extrême. Le premier, publié par un certain Alan Turing en 1949, et qui contient déjà beaucoup d'idées, et passera complètement inaperçu pendant près de 20 ans. Le deuxième, de Robert Floyd, Assigning Meanings to Programs, qui est une redécouverte des idées de Turing et puis un approfondissement considérable, et qui vraiment lance les idées de la vérification déductive, de la sémantique axiomatique, comme on le verra. Et puis l'article de Charles Anthony Robert Hoare, qui, de 1969, qui a vraiment fait connaître ces idées et les a réexprimées dans un cadre logique. Donc vraiment l'idée de logique de programme vient de cet article. Donc commençons tout de suite par notre cher Alan Turing. Il y a un article absolument admirable qui fait, comme vous le voyez, deux pages de texte tapées à la machine et une page de dessin. Donc c'est tout à fait court. Et ce sont en fait des notes qui accompagnent une communication que Turing a faite en juin 1949 à la conférence inaugurale sur le calculateur ETSAC à l'Université de Cambridge. Et le texte, enfin les actes, entre guillemets, de ce congrès ont disparu ensuite dans les archives et a été seulement republié en 1984 par Morris et Jones, donc, qui ont repris le texte, l'ont corrigé, l'ont commenté et publié dans la revue Annals of the History of Computing. Alors peut-être un tout petit peu de contexte historique. Donc en 1949, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc, Turing est revenu à la vie civile après ses exploits de cassage des chiffres allemands Enigma en particulier. Donc il revient à la vie civile, revient à l'Université de Cambridge où il suit divers cours et participe aussi à la conception d'un ordinateur moderne, donc un calculateur programmable à programme enregistré en mémoire, qui s'appelle ACE, A-C-E, bon, mais qui ne sera jamais réalisé, pour des raisons X et Y. Et puis, vers 1948, donc, Turing prend un poste à Manchester, où là, il participe à un deuxième calculateur programmable à programme enregistré, le Mark I, qui, lui, sera réalisé et même commercialisé par la société Ferranti. Donc, c'est vraiment un des premiers ordinateurs modernes. Et en parallèle, donc, les gens de Cambridge ont fait cette ETSAC, qui est un autre design plutôt inspiré par les travaux des Américains, von Neumann, Eckert et Mauchly. Bref, et donc en 1949, l'ETSAC est inauguré, et le gratin de l'informatique britannique, il ne devait pas être beaucoup de gens, se réunit pour parler de diverses choses, j'imagine, d'architecture des ordinateurs, peut-être un peu de programmation, comment est-ce qu'on va les programmer. Et Turing arrive avec une question qui est à 20 ans d'avance sur tout le monde, comme d'habitude, avec Alan Turing. Donc, lui, il suppose qu'on a des ordinateurs, il suppose qu'on sait les programmer. Et maintenant, comment peut-on vérifier un programme? How can one check a routine? In the sense of making sure that it is right, au sens de s'assurer qu'elle fait ce qu'elle est censée faire. Voilà une question intéressante et qui va prendre de l'importance à l'avenir. Et alors Turing non seulement pose la question, mais il a quelques idées. Il dit que bon, il faut faciliter la tâche de la personne qui va vérifier. Et pour ce faire, le programmeur devrait mettre des assertions qui peuvent être vérifiées individuellement et à partir desquelles la correction de l'ensemble du programme va s'en suivre facilement. Alors, il illustre sa démarche par un exemple trivial. Il n'est pas vérifier un programme, c'est vérifier une addition. Alors, supposons donc qu'on a cette addition, là, de 5 nombres de 4 chiffres. Si la personne qui a fait l'addition la donne uniquement sous cette forme, le seul moyen de vérifier, c'est de la refaire, de refaire le calcul. Mais si la personne qui a fait le calcul a gardé un peu plus de détails, donc essentiellement a gardé des retenues, par exemple, sur chaque colonne, alors c'est plus facile. On peut, pour le vérificateur, il peut faire la somme des 5 chiffres de chaque colonne, vérifier que pour la première colonne, par exemple, ça fait 34. Et puis, pareil pour les 4 autres colonnes. Et après, il ne reste plus qu'une addition de 2 chiffres, de 2 nombres à vérifier. C'est donc plus facile. Et donc, Turing dit, ben, il n'y a qu'à faire pareil pour les programmes. Et alors, il s'excuse, en bon britannique, il s'excuse de ne pas pouvoir montrer ce que ça donne sur un grand programme, mais qu'il va le montrer sur un petit programme. Alors son petit programme, c'est comment calculer factoriel de n en utilisant que des additions. Car le Manchester Mark I n'avait que 3 opérations arithmétiques, addition, soustraction, test à 0. Enfin, comparaison vis-à-vis de 0. Et donc, si on voulait factoriel de n, eh bien, il faut faire ça par 2 boucles imbriquées. La boucle externe qui itère la multiplication, 2 fois 3 fois 4 fois n, et la boucle interne qui implémente la multiplication en itérant l'addition. A fois b, c'est a plus a plus a plus a, b fois. D'accord ? Alors voilà ce que ça donne, encore une fois, dans un langage moderne, C, C++, Java, etc. Bien sûr, en 1949, il n'y avait pas de langage à contrôle structuré comme celui-là, il n'y avait même pas de langage de programmation du tout. Et comme le dit Turing, en s'excusant une fois de plus, il n'y a pas de système de codage suffisamment connu à ce jour pour que ça vaille la peine que je vous donne le code de ce processus. donc le code de cet algorithme. Mais du coup, il le donne sous forme d'un organigramme, flowchart. Donc ça, c'est redessiné à partir de l'original de Turing. Donc il y a des boîtes qui représentent des calculs élémentaires, incrémentés, additionnés, testés, et puis des arcs qui représentent le flow de contrôle. Alors Turing utilise une notation intéressante. Par exemple, S' égale S plus 1, ça veut dire incrémenter S. Et en fait, donc S', c'est la valeur de S à la sortie du bloc, et S, c'est la valeur à l'entrée. Donc, c'est une convention qui est encore utilisée de nos jours dans des systèmes comme TLA+, par exemple, de Leslie Lamport et co-auteur, et qui est peut-être un peu plus lisible, ou en tout cas certainement plus mathématique, que d'écrire bêtement S égale S plus 1, comme on le fait dans nos langages de programmation. Ceci dit, Turing se trompe un petit peu dans l'utilisation de cette notation. Par exemple, ici, le test de S-R, le S dont il veut parler, c'est le S à l'entrée de G, alors qu'en fait, c'est, en toute rigueur, c'est le S à l'entrée de F, qui est le S' à la sortie de G. Bon, mais peu importe, c'est pas très grave, on comprend ce qu'il veut. Et c'est là qu'arrive son idée géniale, qui est que pour aider donc la personne qui vérifie, le checker, le programmeur doit faire des assertions à propos des différents états que la machine peut atteindre. Et donc, il ajoute cette table qui documente beaucoup de choses. Donc non seulement il documente quelles cases mémoire, 27, 28, 29, 30, 31, contient quelle quantité abstraite à quel moment du programme. Par exemple, au début, le N est dans la case 29, et puis au point B, il y a une quantité R qui est dans la case 28. Mais ça documente aussi les relations entre ces quantités. En B, il y a aussi factoriel de R qui est dans la case 30. Donc l'espèce d'angle, là, c'est la notation factorielle chez Turing. Et voilà, donc ça déjà, ça documente des invariants sur le programme. Et puis, après, il argumente, enfin, il regarde donc pour chaque point de programme où est-ce qu'il peut se brancher et en quoi donc l'état à la sortie du nœud A plus les hypothèses, les assertions qui sont là vont impliquer les assertions qui sont donc sur l'autre point. Alors, en notation moderne, qui est introduite par Floyd en 1967, donc dans le deuxième article dont on va parler aujourd'hui, on note en fait les assertions directement sur les arcs de l'organigramme. Donc là, on a notre organigramme de tout à l'heure. Et puis, vous voyez donc les différentes assertions, par exemple à l'entrée, que 0 est strictement plus petit que n, et je sais pas moi, que ici, r est inférieur ou égal à n, et u, c'est la factorielle de r. Bien, donc ça, c'est comment le programmeur présente les faits, ces assertions définies dont parle Turing, comment il les écrit. Maintenant, comment le vérificateur procède ? D'abord, le vérificateur doit vérifier que les assertions correspondant au point d'entrée et au point de sortie de la routine sont cohérents avec ce que le sous-programme est censé faire, c'est-à-dire calculer la factorielle. Donc ici, à l'entrée, on voit une hypothèse comme quoi n est strictement positif, qui est raisonnable, et au point de sortie, on voit une assertion comme quoi v est égal à la factorielle de n, et on peut même le déduire du fait que la condition d'arrêt ici est vraie, donc R moins N est supérieur ou égal à 0, et l'assertion qui porte sur ce nœud de l'organigramme, en entrée de ce nœud de l'organigramme, est supposée vraie. Donc si R est inférieur ou égal à N, et R moins N est supérieur ou égal à 0, alors R est égal à N, et donc V qui est factoriel de R, c'est aussi factoriel de N. D'accord ? Et puis, donc le vérificateur doit aussi vérifier que chacune des assertions dans le bas du tableau est aussi correcte. Et donc ça veut dire, en langage un peu plus moderne, que pour chaque nœud de l'organigramme, si on suppose l'assertion à l'entrée vraie, il faut montrer que l'assertion en sortie est toujours vraie. Et donc là, j'ai essayé de vous le montrer pour le début de la boucle interne. Donc ici, par exemple, si vous avez ça et que vous faites u de point égal, u devient u plus v, eh bien, en fait, ça implique ceci parce que vous êtes en train de remplacer u par u plus v, et donc u plus v égale s plus 1 factoriel de r, étant donné que u, c'est s factoriel de r, et v, c'est factoriel de r, donc ça marche. Et de même, ici, si le test d'arrêt de la boucle est négatif, eh bien, on va bien, à partir de cette assertion, à la fin du corps de la boucle, on va bien rétablir l'assertion sur l'entrée de la boucle. Bon. Et comme le fait remarquer Turing, En faisant ceci, les colonnes, donc chaque nœud de l'organigramme, peut être étudié dans n'importe quel ordre et de manière complètement indépendante. D'accord ? C'est pas un raisonnement où on est obligé de suivre dans sa tête ou manuellement tous les chemins d'exécution dans le programme. C'est un raisonnement purement local. Et alors, Turing n'oublie pas qu'il faut aussi vérifier la terminaison. Bon, il connaît deux ou trois choses sur la terminaison et la non-terminaison, mais donc il n'oublie pas qu'il faut vérifier la terminaison. Et donc là aussi, le programmeur peut aider en spécifiant une quantité qui doit décroître continuellement pendant l'exécution du programme et s'évaporer, tomber à zéro lorsque la machine s'arrête. Alors Turing propose, en bon mathématicien, propose de prendre un ordinal, n-r oméga carré plus r-s oméga plus k. Et l'ordre sur cet ordinal, en fait, c'est l'ordre lexicographique, sur n-r, r-s, k. Alors k, c'est une quantité qu'il a soigneusement choisie sur chacun des nœuds de son organigramme, de telle manière qu'elle décroisse quand le code avance tout droit. Et puis r-s, ça décroît à chaque tour de la boucle interne, et n-k, ça décroît à chaque tour de la boucle externe. Donc on a bien la décroissance dans l'ordre lexicographique. Et alors, un peu plus prosaïquement, il dit, bon, ben, dans la mesure où mes mots machines font 40 bits, sur le Mark One, le Manchester Mark One, ça faisait 40 bits, il suggère de dire, ben, oméga, qui est l'infini, c'est 2 puissance 40, et donc on peut aussi avoir cette quantité entière. Et bien sûr, il s'excuse de ne pas avoir démontré l'absence de débordement arithmétique. Cet article est impeccable, d'accord ? Cet article est impeccable et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il passera complètement inaperçu. D'accord ? Donc les participants au congrès ont complètement oublié ce que Turing leur a raconté ce jour-là. Les actes du congrès sont partis aux archives. Et c'est seulement 18 ans plus tard, donc un résultat similaire, mais plus complet, est publié par Robert Floyd, que vous connaissez peut-être davantage pour ses algorithmes de graphes et aussi... d'algorithmes graphiques, enfin de dessin, pardon, et aussi, il a aussi beaucoup travaillé sur le parsing, l'analyse syntaxique et les langages formels. Mais donc cet article, qui est publié en 1967, est complètement fondateur lui aussi, parce que ça se voit dès le titre. Le titre, c'est pas vérifier les programmes, c'est aussi donner un sens au programme. Et vraiment, les deux choses sont liées pour Floyd. Dans cet article, il dit on va donner une base formelle pour définir la signification des programmes écrits dans des langages de programmation, de telle manière qu'on aura des standards de preuve, donc des méthodes rigoureuses de démonstration de propriétés des programmes d'ordinateur, des programmes informatiques, incluant des preuves de correction, d'équivalence et de terminaison. Voilà. Donc cet article, lui, il a été formellement publié dans une revue de l'AMS qui s'appelle, une collection d'articles. C'était pas vraiment une revue, qui s'appelait Mathematical Aspects of Computer Science. Et il fait 14 pages, et vous allez voir que les 14 pages sont très très denses. Il y a beaucoup de choses. Donc dès l'introduction, Floyd se met dans le même cadre que Turing, essentiellement. Donc on prend un organigramme et on annote les arcs du flot de contrôle par des assertions logiques. Donc ça, c'est l'exemple de Floyd, qui est un peu plus simple, il n'y a qu'une boucle. Il s'agit de calculer la somme des éléments d'un tableau, donc la somme des A de I pour I allant de 1 à N. Et donc là, vous voyez, c'est un peu petit, je suis désolé, mais on voit les différentes assertions. Par exemple, ça, c'est l'assertion à l'entrée de la boucle, qui est que la variable grand S contient la somme partielle des AJ pour J variant de 1 à I moins 1, et I est inférieur ou égal à N plus 1. Bon. Mais Floyd va plus loin que de prendre un exemple et de dire, vous voyez, on voit bien que ça marche. D'abord, il formalise les conditions de vérification. Étant donné un organigramme annoté par des assertions, à quelles conditions est-ce que cette annotation est cohérente, est valide, et cohérente avec toutes les exécutions possibles du programme ? Et donc pour ce faire, il dit, ben voilà mon organigramme, voilà des assertions, P, Q, R, S, T, U, et il y a des règles, maintenant je vais vous donner des règles qui permettent d'engendrer les conditions de vérification. Alors, par exemple, si P est vrai à l'entrée de ce test, et si ce test est vrai, X est égal à 0, alors Q doit être vrai. D'accord, P et X supérieur ou égal à 0 implique Q, etc. Donc là, il y a, pour tous les nœuds de ce graphe, on a ces différentes implications qui doivent être vraies. Et après, qu'on peut instancier, on peut choisir bien sûr des P, Q, R, S, T, U particuliers pour montrer par exemple que ce code calcule la valeur absolue. Y, c'est la valeur absolue de X. Et puis, Floyd observe que ce processus, qui part d'un programme annoté et fournit les conditions de vérification, est une sémantique formelle du langage de programmation. Alors ça, c'est une terminologie plus moderne. La notion qu'un langage de programmation puisse avoir une sémantique n'était pas connue à l'époque, d'accord. Mais c'est assigning meanings to programs, d'accord. Donner un sens formellement précis au programme. Et donc, c'est la première sémantique formelle qui est publiée, et c'est l'approche qu'on appelle aujourd'hui sémantique axiomatique. D'autres approches viendront après, sémantique opérationnelle, sémantique dénotationnelle, donc ça on en a beaucoup parlé dans le cours de l'an dernier, sémantique mécanisée, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais comme Floyd l'observe assez modestement à la fin de son introduction, cette proposition donc, que la sémantique d'un langage de programmation peut être définie indépendamment de tous ses processeurs, de toutes ses implémentations, et tout en établissant des standards rigoureux de preuve à propos des programmes écrits dans ce langage, cette proposition semble nouvelle. Effectivement, elle l'est. Elle l'est. Alors, c'est quoi les conditions de vérification ? Donc, Floyd commence à les donner pour un langage simple d'organigramme. Évidemment, chaque langage vient avec ses conditions de vérification. Donc, pour les organigrammes, il y a trois types de nœuds qui regardent. Il y a le nœud conditionnel. Si la condition B est vraie, on sort à gauche, sinon on sort à droite. Et donc, on voit bien que donc, si on sort à gauche, la postcondition Q1 doit être impliquée par P et le fait que B est vrai. Et puis, si on sort à droite, parce que B est faux, il faut que la postcondition Q0 soit impliquée par la précondition P et le fait que B est faux. Maintenant, si on a un point de jointure dans l'organigramme, donc on peut arriver soit par la gauche avec la avec P1, soit par la droite avec P2, et on continue avec Q, et donc il faut que P1 implique Q, et que P2 implique Q, ou en d'autres termes, que P1 ou P2 implique Q. Et puis, alors il y a une règle compliquée qui est pour l'affectation, donc l'affectation qui est un peu l'opération de base. Donc j'affecte dans X une quantité F qui dépend de l'ancienne valeur de X et d'autres variables Y. J'ai une précondition qui parle de X et des variables Y, j'ai une postcondition Q. Et donc Floyd sort de son chapeau cette formule, qui n'est pas évidente du tout au premier coup d'œil, donc on va la décortiquer ensemble. Alors on va commencer par un exemple simple, celui où on ne parle pas de X dans la précondition, donc il n'y avait aucune info, par exemple où la précondition c'est Y est plus petit que 10. Donc affecter une valeur à X ne change pas la précondition, elle reste vraie, et en plus on apprend quelque chose sur la valeur de X en sortie. Ici on est sûr que X c'est 0. En revanche, si la précondition parlait de x, par exemple y égale 2 fois x, et qu'on affecte 0 à x, bon, on ne peut pas garder la précondition telle quelle, x était quelconque avant, mais d'un autre côté, si on la jette, on perd une information, qui est que y est pair, un nombre pair. Et donc, l'idée de Floyd, c'est qu'on va quantifier existentiellement sur l'ancienne valeur de x, on va l'appeler x0, et on va dire que la précondition est vraie de l'ancienne valeur de x, y égale 2x0 pour un certain x0, et puis x vaut 0. Et cette approche, elle s'étend aussi au cas où la nouvelle valeur de x dépend de l'ancienne valeur de x. Par exemple, on incrémente x, et là, on a une précondition qui parle aussi de x. Et donc là, on va dire qu'il existe x0, l'ancienne valeur de x, telle que la nouvelle valeur x se déduit de l'ancienne valeur, et telle que l'ancienne valeur satisfait la précondition. Et donc, dans le cas général, on obtient effectivement cette implication. Il faut qu'il existe une ancienne valeur de x, x0, tel que le nouveau x est égal au membre droit e dans lequel x est remplacé par x0, et la précondition est vraie de x remplacé par x0. Et tout ça, ça doit impliquer la postcondition. Ouf. Bon, on y est arrivé. Alors après, Floyd, il introduit quelques règles générales. Alors c'est là que les notations deviennent un peu lourdes. Je vous prie de m'excuser, mais... Donc, il note C une commande, un morceau de programme. Par exemple, ça peut être un nœud d'un organigramme, mais ça pourrait être aussi dans un langage un peu plus riche comme Algol, ça pourrait être la séquence de deux commandes ou des choses comme ça. Il note vecteur P les préconditions de C. Alors, a priori, il peut y en avoir plusieurs s'il y a plusieurs points d'entrée dans la commande. Et puis Q flèche, ce sont les post-conditions. Et là aussi, il peut y avoir plusieurs sorties. C'est une conditionnelle, par exemple, il y a deux sorties. Et donc, il faut une post-condition par sortie. Et donc, étant donné une commande C annotée par des préconditions P et des post-conditions Q, il note VC de P et de Q les conditions de vérification, les formules logiques qui disent à quelles conditions cette annotation est cohérente. Alors, il y a des propriétés un peu méta de ces conditions de vérification qui sont vraies pour tous les langages de programmation. Donc, là, il les énonce ici. Par exemple, si la même commande peut être annotée de manière différente avec des préconditions P et P', ou dans un cas, les préconditions CP, dans l'autre, CP'. Dans un cas, les postconditions CQ, dans l'autre, CQ'. Alors, on peut annoter par P et P' et conclure par Q et Q', et ça reste valide. Mais aussi, on peut prendre comme précondition P ou P' et comme postcondition Q ou Q', et ça reste valide. Ou encore, on peut quantifier existentiellement sur une variable X qui apparaît dans la précondition et dans les postconditions. Et puis, il y a la règle de conséquence, qui est que donc, on peut renforcer la précondition, la remplacer par un P' qui implique les préconditions d'origine, et affaiblir la postcondition, remplacer Q par un Q' qui est impliqué par Q. Ensuite, donc, Floyd se pose la question de la correction sémantique. Est-ce que ça capture bien toutes les exécutions possibles du programme? Ou en termes un peu plus formels, donc, si on a une annotation cohérente, la condition de vérification est vraie, la commande C s'exécute d'un état initial S vers un état final S' en prenant la sortie numéro J. Et si l'état initial S satisfait l'une des préconditions PI, alors est-ce bien le cas que l'état final S' satisfait la postcondition QJ, qui correspond à la sortie sélectionnée? Et donc ça, c'est facile à voir pour les trois règles des organigrammes. Et ça a un corollaire, qui est que maintenant, si vous faites une espèce de récurrence sur la trace d'exécution à l'intérieur de l'organigramme, celle qui part du point d'entrée puis qui finit par arriver au point de sortie. Et donc, si votre programme démarre dans un état initial qui satisfait la précondition du point d'entrée, P, et s'il termine, alors son état final satisfait forcément la postcondition Q, puisque toutes les préconditions et postconditions intermédiaires sont satisfaites d'après cette propriété. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, l'idée de vérification locale de Turing, qui permet de conclure à la fin par une récurrence finale sur le nombre d'étapes d'exécution dans le programme, que le programme fait ce qu'il faut. Alors, il y a encore plein d'autres choses dans cet article, il ne faut pas que je passe trop de temps dessus, mais... Donc, Floyd conjecture que, en général, la condition de vérification, VC et PQ, peut toujours s'écrire sous la forme suivante. Il y a une plus forte condition, TC, de la commande qui doit impliquer la post-condition qui a été donnée. Et alors, c'est le cas pour les organigrammes. La plus forte post-condition d'une affectation, X reçoit E, avec la précondition P, c'est justement cette formule compliquée de Floyd. Donc, il existe une ancienne valeur X0, telle que la nouvelle valeur de X est E, où X est substitué par X0, et la précondition est vraie de quand on remplace X par X0. Et pour un test, alors la plus forte postcondition, c'est un vecteur, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs sorties. Donc là, il y a deux plus fortes postconditions. Pour le cas vrai, c'est P et B. Et pour le cas faux, c'est P et non B, bien sûr. Alors pourquoi c'est intéressant, cette plus forte postcondition? Parce que, ben, justement, elle se calcule, étant donné la commande C et la précondition, ce qui permet d'envisager de prendre un organigramme partiellement annoté et de le compléter. Donc là, à gauche, j'ai un petit programme avec une boucle, un petit peu comme la somme de Floyd au début, et où j'ai annoté l'arc d'entrée A et puis un des arcs de boucle avec F. Et en appliquant le calcul le plus fort post-condition, je peux trouver une annotation B pour la sortie du premier nœud. Là, j'ai un nœud qui a deux prédécesseurs, l'un qui est annoté par B, l'autre qui est annoté par F, mais en appliquant T, donc le calcul de plus forte postcondition à B ou F, je peux obtenir la postcondition de ce nœud, qui est C, puis ensuite la postcondition de une postcondition de ce nœud, qui est D, et puis là, T de D, c'est une postcondition, mais on m'en a donné une autre, F, donc il faut que je vérifie une implication. Et eh bien, ça ouvre justement la voie à la vérification automatique de programme. Et ça n'a pas échappé à Floyd, dès 1967. Comme il le dit, le programmeur annote simplement les points d'entrée et un arc par chaque boucle interne. Le programme vérificateur étend l'interprétation, comme je l'ai esquissé ici, donc en mettant des annotations partout sur tous les arcs, et le vérifie, si possible, à l'aide de techniques de démonstration automatique. Ce qui est assez précurseur, hein, en 1967, la démonstration automatique, c'était encore un rêve d'intelligence artificielle. Voilà. Bon, il y a encore plein d'autres choses dans l'article, mais il faut arrêter. Donc, il y a un début de définition des conditions de vérification, VC, pour un langage avec des commandes structurées, à la manière d'Algol, la séquence, le if and else. Il esquisse aussi une boucle for, une boucle comptée. Il y a une discussion de la complétude de la définition de VC, qui est un peu le symétrique de la correction sémantique. Alors, c'est une notion un peu délicate, dont on parlera en détail au prochain cours. Et je ne suis pas complètement convaincu par l'argument qu'il donne dans son article, donc voilà. Et puis, ben, tout comme Turing, il propose une méthode pour vérifier la terminaison, qui est essentiellement d'associer à chaque arc de l'organigramme une quantité. Donc c'est une fonction de l'état des variables dans un ensemble bien fondé, W. Alors il propose pas les ordinaux, mais les n-uplets entiers avec un ordre lexicographique. Et donc il dit, ben, il suffit de vérifier que ces fonctions décroissent sur chaque transition. Et Floyd finit l'article en beauté avec l'exemple d'une vérification complète d'un algorithme de division euclidienne. Correction complète au sens ça calcule le bon résultat et ça termine toujours. Donc il s'agit de calculer le quotient Q et le reste R de X divisé par Y. Il annote chaque arc avec les invariants qui vont bien. D'accord. En particulier, donc, la propriété cruciale qui est x égale r plus qy. Mais il annote aussi chaque arc avec une paire d'entiers qui décroît strictement, lexicographiquement, à chaque transition, et donc qui montre la terminaison. Voilà. Donc, voilà un article magnifique et qui lance ou relance le domaine. Et maintenant, passons au troisième article, qui est celui qui, alors, d'abord, qui améliore les résultats de Floyd sur certains aspects, comme nous allons le voir, et puis surtout qui les a fait connaître beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que j'appelle cet article le manifeste. Il y a vraiment un argumentaire très fort sur pourquoi c'est important. Et par ailleurs, ça a aussi été publié dans les Communications of the ACM, qui à l'époque et aujourd'hui déjà, donc c'est un magazine, une revue sur la recherche en informatique, mais qui est très très lue, beaucoup plus que la revue dans laquelle Floyd avait publié. Donc ça a donné vraiment beaucoup de... Ça a fait du bruit, disons, autour de ces idées de vérification de programme. Alors, le titre de l'article, donc, c'est « An axiomatic basis for computer programming ». Et donc, dès le début, Floyd prend un point de vue axiomatique. Donc, comme il le dit joliment dans l'introduction, donc, dans cet article, nous essayons d'explorer les fondations logiques de la programmation informatique en utilisant des techniques qui ont d'abord été appliquées dans l'étude de la géométrie. Donc ça, c'est la géométrie euclidienne, d'accord, avec ses postulats, et à partir desquels on dérive des démonstrations, et ont ensuite été étendues à d'autres branches des mathématiques. Ceci implique d'expliciter des ensembles d'axiomes et de règles d'inférence qui peuvent être utilisés dans des démonstrations de propriétés de programmes informatiques. Donc là, le concept de logique de programme apparaît très clairement. Donc l'article va donner des exemples de tels axiomes et de règles et montrer la preuve d'un théorème simple. Enfin, on argumentera que des avantages importants, aussi bien théoriques que pratiques, peuvent être obtenus en poursuivant ce thème de travail. Donc, Hoare commence vraiment par cette position de principe, il faut une approche axiomatique. Pourquoi ? Parce que cela permet de spécifier des programmes et de définir des langages de programmation sans pour autant tout spécifier. On peut laisser des choses non spécifiées. Par exemple, pour les langages de programmation, ça correspond à laisser de la flexibilité aux différentes implémentations. Et alors Hoare prend comme exemple justement l'arithmétique entière. Et qu'est-ce qui se passe en cas de débordement arithmétique ? Vous savez que l'arithmétique du processeur, ce n'est pas l'arithmétique mathématique. Il y a les nombres qu'on peut représenter, c'est un intervalle fini. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on déborde ? Donc, en arithmétique entière non signée, il y a trois comportements qu'on peut trouver dans des processeurs. Il y a le comportement erreur. Donc, max plus 1 va arrêter le programme. Il y a le comportement d'arithmétique par saturation. Max plus 1, c'est égal à max. On a ça aujourd'hui en arithmétique en virgule flottante. Infini plus 1, c'est infini. Et puis, il y a le comportement modulo, qui est assez répandu aujourd'hui, qui est que max plus 1, ça fait le tour, et donc ça retombe à 0. Alors, Hoare observe que Algol 60, qui est un langage dont la syntaxe est parfaitement bien définie de manière formelle, ne dit absolument rien sur l'arithmétique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la signification d'une addition en Algol 60 ? Et donc, chaque implémentation d'Algol 60 fait un peu ce qu'elle veut. Et là, Hoare donne 9 axiomes qui sont vrais pour l'arithmétique mathématique dans grand N, mais aussi dans les trois types d'arithmétique machine qu'il a donné. Donc, des axiomes comme la commutation ou l'addition, la multiplication, l'associativité, la distribution, élément neutre, élément absorbant. Bon, soit. Et là, il montre que, avec ces axiomes, on a juste assez pour vérifier le programme de la division euclidienne, celui qu'avait montré Floyd. Et donc ça, il y a une conséquence très jolie, qui est que ce programme, il est correct pour ces trois types d'arithmétique machine. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de refaire la preuve. Si vous passez d'une machine qui a une arithmétique en erreur à une machine qui a une arithmétique modulo. C'est joli quand même. Et ensuite, il dit, ben voilà, maintenant on va faire la même chose pour les programmes. Donc, axiomatisons les programmes. Et c'est là qu'il introduit alors, une notation qui va avoir beaucoup de succès, les triplets de Hoare, et qui est beaucoup plus lisible que le VC de P et de Q de Floyd. Donc c'est triplets, c'est P, Q, R. Alors lui, il l'écrit comme ça. P, c'est la précondition, Q, c'est le programme, R, c'est la postcondition. Et le programme est mis entre accolades. Et ceci peut être lu comme si l'assertion P est vraie avant le démarrage du programme Q, alors l'assertion R sera vraie quand il termine. Alors la notation un peu plus moderne, on met les accolades autour de la précondition et de la postcondition. Du coup, ça ressemble un peu à des commentaires qu'on a mis de part et d'autre de la commande. D'ailleurs, certains langages comme Pascal utilisent les accolades comme commentaires, me semble-t-il. Donc ça ressemble. Et donc, voilà, donc on a la précondition, traditionnellement appelée P, la commande, souvent appelée C, et la postcondition, souvent appelée Q, comme chez Floyd. Et Hoare, lui, ne se préoccupe pas des organigrammes, il passe directement à un langage à contrôle structuré, dans le style d'Algol 60. Et donc, il donne les axiomes et les règles pour un langage où il y a des affectations, des séquences, commande suivie d'une commande, et une boucle while B, d'où C, itérer la commande C tant que la condition B est vraie. Et il donne donc les règles qui permettent de déduire des triplets de Hoare pour ces constructions. Alors, donc il y a une règle pour l'affectation qui n'est pas celle de Floyd et dont on va reparler ensuite. Il y a une règle pour la boucle qui est complètement originale et dont on va reparler ensuite. Donc je vais détailler tout de suite la règle pour la composition. Donc si vous avez pu montrer le triplet PC1Q, c'est-à-dire que si on démarre C1 dans un état satisfaisant P, on arrive à un état et que C1 termine, alors on arrive à l'état Q. Et si vous avez pu démontrer le triplet QC de R, donc quand on démarre C2 dans un état qui satisfait Q et qu'on termine, alors on satisfait R. Du coup, il est assez naturel de pouvoir dériver le triplet P, C1 suivi de C2, R. Puisque C1 suivi de C2, c'est justement enchaîner l'exécution de C1, puis celle de C2. Et puis, Hoare donne deux autres règles, des règles de conséquence, cette fois-ci, comme chez Floyd. Donc l'une qui permet d'affaiblir la postcondition et l'autre qui permet de renforcer la précondition. Alors, parlons de cette règle de l'affectation. La règle de Hoare pour l'affectation, elle est différente de celle de Floyd. Celle de Floyd, elle est d'une certaine manière en avant, étant donné une précondition quelconque P, quelle est la plus forte postcondition. Celle de Hoare, c'est plutôt étant donné une post-condition Q, ce qu'on veut savoir après l'affectation, qu'est-ce qu'il faut supposer avant l'affectation. Et ben c'est très simple, Q peut parler de X, bien sûr, et juste après cette affectation, X n'est pas quelconque, X est égal à E, son membre droit. Et donc, il suffit que Q soit vrai, pas de n'importe quel X, mais des X remplacés par E. Alors, voyons voir ce que ça donne. Par exemple, si après l'affectation X reçoit 0, vous voulez montrer que X est égal à 0 et que Y est inférieur ou égal à 10, eh bien, vous remplacez X par 0 mécaniquement dans cette assertion. Vous obtenez 0 égale 0 et Y inférieur ou égal à 10. 0 égale 0, c'est vrai. Donc, en utilisant une des règles de conséquence, vous pouvez juste avoir Y inférieur ou égal à 10 comme précondition. D'accord ? Et alors, ça marche très bien quand la nouvelle valeur de X dépend de l'ancienne valeur. Par exemple, si après un incrément de X, vous voulez montrer que X est entre 1 et 10, alors eh bien, il faut montrer qu'avant, X plus 1 est entre 1 et 10, c'est-à-dire X est entre 0 et 9. Et ça fait un triplet dehors tout à fait cohérent. Voilà, donc une très jolie règle pour l'affectation qui est beaucoup plus maniable que celle de Floyd. Et puis aussi une très jolie règle pour l'itération, pour la boucle. Et c'est là qu'apparaît l'idée, aujourd'hui évidente, mais je trouve assez géniale, de dire que la précondition de la boucle, c'est en fait un invariant de la boucle. Puisqu'on peut tout à fait... si on exécute le corps de la boucle une première fois, d'accord, une fois que C a terminé, il va falloir redémarrer la boucle, se redemander si B est vrai et s'il faut oui ou non itérer C. Et donc, C doit rétablir la précondition P. D'accord ? Donc, en post-condition de C, on a la précondition de la boucle, et en ce sens que P est un invariant de la boucle. Il doit être vrai à chaque tour. Et alors, du coup, ben, la précondition de C, c'est P et le fait que B est vrai, puisqu'on n'exécute pas C si B est faux. Et la post-condition de la boucle, c'est P et le fait que B est faux, puisque c'est comme ça qu'on s'arrête. C'est quand B est faux. Voilà. Et donc, avec ça, plus la règle de l'affectation, vous arrivez déjà à montrer des codes simples, comme par exemple cette boucle comptée, qui prend x égale 0 et incrémente x tant que x est strictement plus petit que 10. Et vous pouvez montrer qu'à la fin, x est égal à 10, avec comme invariant de boucle, P, que j'ai mis en rouge, le fait que x est entre 0 et 10. Et Or finit la partie technique de son article avec le même exemple que Floyd, à savoir la division euclidienne. Alors, il ne montre pas la terminaison. En revanche, il montre la correction partielle donc sur une forme structurée du code, donc quand même plus lisible que l'organigramme. Donc, on voit R initialisé à X, Q initialisé à 0, et tant que le reste R est supérieur ou égal au diviseur Y, on incrémente le quotient et on diminue le reste. Et donc à droite, c'est la vérification telle que Rohr l'écrit dans son papier, et où il utilise à la fois donc, les axiomes des triplets de Rohr pour raisonner sur l'exécution du programme, mais aussi les axiomes de l'arithmétique qu'il a énoncé avant. Voilà. Mais ce n'est pas la fin de l'article. Et donc la fin de l'article, c'est vraiment le manifeste. D'accord ? Donc le manifeste de la vérification déductive. D'abord, il y a une section donc, qui discute tout ce qui reste à faire, tout ce que Rohr n'a pas fait. Donc Rohr reconnaît qu'il n'a pas vérifié la terminaison, qu'il n'a pas vérifié l'absence d'erreur à l'exécution, et puis que son traitement de l'arithmétique mérite d'être complété, en particulier pour faire de la virgule flottante. Qu'il faut savoir traiter les structures de données, les tableaux, les enregistrements, les procédures, les fonctions, mais aussi oui, d'autres structures de contrôle, comme les procédures, les fonctions récursives. Quelques années auparavant, Rohr a inventé Quicksort, l'algorithme de tri qui est récursif. Et, donc, et quelques années plus tard, il arrivera à en faire une preuve en logique de Rohr. Et donc, avoir des règles pour raisonner sur les fonctions récursives est très important pour lui. Mais il faudrait peut-être aussi traiter le goto, et puis les pointeurs, etc., etc. Et donc ça, c'est 20 à 30 ans de travail là, qu'il est en train d'esquisser. Et la section d'après, c'est l'argumentaire, c'est le plaidoyer. Pourquoi vérifier les programmes, après tout ? Et les arguments qu'il donne sont frappés au coin du bon sens et encore tout à fait justes aujourd'hui. Premièrement, le test, ça coûte cher. Développer des jeux de test, les administrer. À l'époque de Hoare, le temps CPU était coûteux, de nos jours moins, mais développer des jeux de test, oui, certainement, c'est coûteux encore. L'erreur coûte très cher. L'erreur dans un logiciel déjà déployé, déjà utilisé en production, peut coûter très cher. Vérifier les programmes, c'est aussi un moyen de les documenter, de rendre explicites les préconditions, les postconditions des fonctions, par exemple. Quand vous avez une bibliothèque, c'est vraiment un moyen de documenter ce que chaque fonction fait de manière extrêmement précise. On l'a vu sur la recherche dichotomique, par exemple. Le contrat qu'on a fini par avoir, c'est une documentation extrêmement précise de ce que fait la fonction. Et puis, il y a aussi un intérêt pour la portabilité. Donc, on l'a vu sur l'exemple des trois arithmétiques différentes. Vérifier un programme, ça oblige donc à expliciter toutes les caractéristiques de la machine desquelles il dépend. Et du coup, ben, si on a une autre machine mais qui a les mêmes caractéristiques, le programme est portable sur cette autre machine. Voilà, et donc ça vaut vraiment la peine de lire cette partie de l'article qui est vraiment très bien écrite en plus. Donc je vous en donne quelques extraits que j'aime beaucoup et que je vais essayer de traduire au vol. Vous pouvez lire l'anglais. Donc une fois que la correction d'un programme, de son compilateur et du matériel de l'ordinateur ont toutes été... toutes ces corrections ont été établies avec la certitude des mathématiques, il sera possible de faire entièrement confiance aux résultats, dans les résultats d'un programme et de prédire leurs propriétés avec une confiance limitée uniquement par la fiabilité de l'électronique. C'est joliment dit. Deuxième extrait. Le coût de l'erreur dans certains types de programmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les logiciels critiques, peut être presque incalculable. Un vaisseau spatial perdu. Rappelez-vous, c'est écrit en 1969. La course vers l'espace bat son plein. Un vaisseau spatial perdu, un immeuble qui s'effondre, un avion qui se plante, ou une guerre mondiale. C'était aussi la guerre froide. Et donc, la pratique de la preuve de programme, ce n'est pas juste une aventure théorique que l'on suit au nom de la responsabilité universitaire, mais aussi une recommandation des plus sérieuses pour réduire les coûts associés aux erreurs de programmation. Et le petit dernier pour la route. Il est vrai que la preuve de programme, certainement au moment où Hoare écrit, peut-être encore un peu aujourd'hui, est difficile même pour les programmeurs du plus haut calibre. Et il se peut aussi qu'elle ne soit applicable qu'à des programmes assez simples. Mais comme dans d'autres domaines, la fiabilité vient au prix de la simplicité. Voilà, et donc sur ces sages paroles, eh bien, nous sommes arrivés à la fin du cours, donc nous allons faire un petit point d'étape et voir ce qui nous attend au prochain cours. Donc, dès 1969, donc dès cet article de Hoare, les grandes lignes de la vérification déductive sont déjà tracées. On les voit donc dans les travaux de Floyd et dans l'article de Hoare. Il reste beaucoup de travail à faire, bien sûr. Et donc, dans les années 70 et 80, la communauté d'informatique théorique s'est vraiment emparée de ces idées et a approfondi de manière considérable les bases de cette logique de Hoare, comme on l'a appelée. Et donc ça, on passera en revue ces résultats la semaine prochaine, donc dans le cours numéro 2. Et c'est à partir des années 1990 qu'on commence à les mettre en pratique, ces idées, sous forme d'outils de vérification déductive, comme le Framasi que je vous ai montré, bon, qui lui date plutôt des années 2000. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Essentiellement parce que les démonstrateurs automatiques ont mis longtemps à faire des progrès et à devenir suffisamment efficaces pour pouvoir être utilisées dans ce contexte. Et donc ça, on verra en particulier dans les deux premiers séminaires, celui de Loïc Corenceau et celui de Yannick Moy, un peu l'état de l'art de ces outils de vérification déductive basés sur la logique de Hoare aujourd'hui. Et puis, Au début des années 2000 viendra le prochain grand tournant du domaine, avec la logique de séparation. Et ça, ça nous occupera à partir du cours numéro 3. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. On termine un petit peu plus tôt que j'avais prévu, mais c'est très bien ainsi. Et donc, je vous propose d'arrêter l'enregistrement ici. Et je vous remercie de votre attention.